Esprit de justice qui reçoit ce soir un invité exceptionnel en la personne du professeur Denis Mukwege. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui a fondé l'hôpital de Panzi dans le sud du Kivu, au Congo oriental, consacre sa vie à réparer le corps des femmes victimes de viols de guerre principalement. Il se bat contre la fatalité de la violence au cœur d'un véritable système de guerre qui dévaste sa région. Des violences qui ont été bien documentées, notamment par le rapport Mapping rendu en 2010, mais qui mobilisent peu, à vrai dire, sinon la communauté internationale, au moins l'opinion internationale. Docteur Mukwege a très tôt compris que son action pour réparer le corps, les corps, était indissociable d'une lutte contre l'impunité et pour la justice, pour de nouvelles formes de justice qu'il appelle holistiques. Son combat, me semble-t-il, résonne ici en France avec l'intérêt grandissant pour la justice restaurative, notamment celle qui s'invente en ce moment pour reconnaître et réparer les victimes d'agressions sexuelles commises dans divers secteurs de la société française et plus particulièrement qui ont été commises par des religieux et dont les victimes sont d'ailleurs des femmes ou des hommes. Aussi éloigné soit-il dans l'espace et dans les contextes, les combats du docteur Mukwege et les nôtres sont en réalité très proches. Ils sont très proches parce que tenter de soigner les corps et de réparer les âmes dans une nouvelle perspective, à la fois audacieuse et imaginative, qui tente de sortir de la logique excluante et stérile de la peine, voilà ce qu'est la justice holistique. Et c'est peut-être là la plus grande contribution des combats des femmes dans nos sociétés qui ne luttent pas uniquement pour elles, mais qui vont peut-être accoucher d'une nouvelle justice. Denis Mukwege, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps pour discuter avec moi, avec nous. Je suis en public dans le cadre d'Esprit de justice. Alors, je le disais, vous êtes médecin, vous êtes un acteur de la réparation, un acteur très très concret, très pratique, mais vous êtes devenu un témoin, Denis Mukwege, un témoin, un porte-parole, celui qui parle pour les sans voix. De quoi témoignez-vous ?
Effectivement, je suis médecin, je suis chirurgien et je faisais mon travail de chirurgien. Et malheureusement, j'avais constaté, la première chose que j'avais constatée, c'est que les malades, une fois opérés, ils avaient du mal à retourner dans leur village. Et après un moment, on s'était rendu compte qu'elles présentaient des plaintes qui n'étaient plus physiques. Leurs plaintes avaient absolument un lien avec leur mental. Donc ça nous a poussé à chercher des psychologues dans l'hôpital pour prendre en charge les victimes qu'on opérait. Mais la prise en charge psychologique et physique, une fois qu'on avait les résultats, il y avait tout le problème pour ces victimes de retourner dans leur village puisqu'elles étaient exclues, discriminées. Et donc nous avions introduit un troisième pilier de notre prise en charge, qui est la prise en charge socio-économique pour autonomiser les femmes. Et enfin, lorsque les femmes se portent bien, physiquement, psychologiquement, elles vont mieux, et économiquement, la question qui se pose, pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi le bourreau, il est dans le village, il se promène libre? Je vais connaître, je vais savoir pourquoi c'est arrivé à moi. Et là, souvent, elle revenait pour demander à ce qu'on les accompagne en justice.
Une clinique judiciaire.
Et voilà, exactement. Et donc, l'hôpital était dans cette obligation. Je pense que c'est puisque les victimes nous faisaient confiance qu'elles revenaient pour qu'on puisse les accompagner. Et progressivement, aujourd'hui, nous avons une clinique juridique. Et nous proposons à la carte, en fait, les victimes de violences sexuelles, elles peuvent choisir d'aller en justice ou non. Si elles choisissent d'aller en justice, nous avons des avocats qui les accompagnent devant les cours et tribunaux.
Comment vous définiriez, Denis Mukwege, une victime de viol guérie, relevée ?
Je crois que c'est une définition qui peut être difficile, puisque guérir, est-ce que vraiment les victimes de viol guérissent ? Je me pose la question, puisque j'ai eu dans ma profession à rencontrer des femmes qui ont été violées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces vieilles femmes qui ont été violées il y a plus de 70 ans continuent à parler de leur viol avec le même langage que les filles qui ont 12 ans. Et ça, sans tenir compte de l'espace géographique, qu'elles soient en Asie, en Europe, en Afrique ou en Amérique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous puissions chercher dans ce traumatisme de viol, puisque j'ai l'impression qu'une femme qui a été violée, elle porte cette blessure toute la vie. Et peut-être nous aurons des psychologues qui peuvent nous dire plus. Mais mon expérience, j'ai l'impression que violer une femme, c'est la chose la plus odieuse qu'on peut faire, puisque finalement, la cicatrice est indélébile.
Vous avez une phrase dans un ouvrage qui a été publié chez Gallimard, « La force des femmes », on reviendra sur ce terme « la force des femmes », et vous avez une phrase qui personnellement m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup parlé en fonction de l'expérience qui est la mienne en ce moment. Vous dites, vous parlez d'une jeune femme que vous avez soignée, et vous dites « aujourd'hui, elle a reconstruit sa vie, elle a vécu, elle a vaincu ses démons ». Elle ne pourra jamais oublier son passé. Elle pleure encore parfois sous la douche le matin. Mais ça ne la définit plus. Cela ne la paralyse plus. Cela ne la définit plus, Denis Mukwege.
C'est ça la force des femmes. Parce que je crois que les femmes que je soigne, lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, à voir les blessures qu'elles ont, et parfois lorsqu'elles racontent leur histoire, vous déposez votre stylo et vous vous cachez parfois pour laisser couler une larme, tellement c'est difficile et très très lourd à écouter. Mais je crois que quand je vois que ces femmes, après, quand elles entrent dans ces processus de guérison, donc médical, psychologique, socio-économique, légal, juridique, et que finalement, elles reprennent tout à fait, je dirais qu'elles reprennent une nouvelle identité, mais cette nouvelle identité ne fait pas qu'elles oublient ce qui s'était passé. Et donc, de temps en temps, il y a des flashs qui viennent comme ça, et elles pleurent, mais elles continuent. Et ça, je trouve que c'est une force extraordinaire.
Et c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas dépassé. Ces larmes ne sont pas le signe qu'elles sont bloquées. Elles ont dépassé.
Mais non, elles ont dépassé puisqu'elles décident de refaire leur vie. Elles décident d'être une nouvelle personne. Elles décident tout simplement de continuer à vivre, continuer à se battre. J'aime souvent donner cet exemple. Moi, je suis très impressionné par les femmes puisque lorsque vous l'avez opérée et qu'elle se réveille et qu'elle vous pose la question « Comment va mon enfant ?» ou même « Comment va mon mari ?» Ça, ce sont des questions qu'on n'a pas de la part des hommes. Lorsqu'un homme se réveille d'une intervention chirurgicale, c'est « Comment ça va ? Est-ce que je vais retrouver toutes mes capacités ?» Mais les femmes, même dans la souffrance, elles continuent à penser à leurs enfants, à leur entourage. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire.
Vous êtes comme fasciné par cette extrême vulnérabilité des femmes qui n'ont aucune force de résistance à offrir à leurs prédateurs et en même temps à la puissance dont elles font.
Je pense que c'est ça leur force en fait. Et j'aime bien les femmes qui disent « il m'a violée mais il ne m'a pas diminué, je reste une femme et je vais me battre ». Je crois que ça c'est extraordinaire de voir le courage que les femmes peuvent avoir, même après avoir été violées. Dans notre expérience, nous avons soigné également les hommes. Et je peux vous dire que nous, les hommes, nous sommes plus vulnérables, nous sommes fragiles. Un homme, à partir du moment où sa masculinité est touchée, Il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Et même si vous mettez beaucoup de psychologues à pouvoir l'accompagner, et nous subissons encore des cas de suicide à la fin, alors que depuis une dizaine d'années, depuis que nous avons introduit les psychologues dans notre prise en charge, nous avons presque plus de femmes qui se suicident. La résilience est très, très élevée chez les femmes.
Alors, les victimes d'abus sexuels par l'Église ont cette particularité que ce sont souvent des hommes, des petits garçons. 80% des victimes d'abus sexuels, des victimes mineures, sont des petits garçons et donc sont des hommes aujourd'hui. Ce qui pose effectivement des problèmes beaucoup plus profonds, dans lesquels on constate d'ailleurs, sans pouvoir le chiffrer, on constate qu'il y a beaucoup de suicides. Et notamment, il y a quelquefois des suicides d'enfants, quoi, de préadolescents qui ne supportent pas. Et est-ce que ça vous arrive, ou est-ce que ça arrive tout court d'ailleurs, des viols de guerre masculins ?
Absolument. C'est ce que je dis, ça représente à peu près 1% des patients que nous prenons en charge à Panzi. Et c'est très, très difficile pour les hommes d'accepter quand ils sont violés, surtout si ces viols se commettent en présence de son épouse ou des enfants. Les hommes les supportent très, très mal. Souvent, ils disparaissent ou se suicident.
Oui, c'est ça. Ils sont détruits. Ils sont socialement détruits.
Absolument.
Alors, vous disiez, vous parliez de de quelque chose qui est terrible, mais que nous connaissons malheureusement bien aussi. C'est ces victimes de viol qui continuent d'habiter le même village que leur agresseur, ou leur agresseur devient et parfois occupe des fonctions importantes dans ce village. Et la langue française, elle n'a pas, à mon avis, de mots aussi forts que le mot anglais silencing, c'est-à-dire être réduit au silence, être assigné au silence. Ce qui a été le cas pour chez nous, des victimes d'abus sexuels dans l'Église, où le silence de l'Église autour de ces violences les réduisait au silence. Vous constatez ce même poids du silence, docteur Mukwege ?
En fait, l'arme absolue des bourreaux, c'est obtenir le silence de la victime. Et le bourreau ne peut pas continuer à violer une victime qui a brisé le silence, qui a pris la parole. Lorsque la victime a le courage de prendre la parole, la victime prend une ascendance sur son bourreau. Et à ce moment-là, directement, la peur change de camp. Et la peur est dans le camp du bourreau. Et je pense que tous les bourreaux, malheureusement, utilisent le silence pour continuer à commettre leurs actes en toute impunité.
C'est ça. Et le silence qui, dans l'Église, est redoublé par le sacré, qui est une autre manière d'imposer, qui fait que l'enfant ne peut pas parler.
Ben, si dans l'Église, c'est le sacré, mais dans la guerre, c'est l'arme. Donc si vous osez dénoncer, je vais vous tuer, ou si vous osez dénoncer, c'est votre mari qui va vous quitter, etc. Mais je pense que le bourreau arrive toujours à trouver donc l'astuce qui permet à ce que la victime est terrorisée et elle est obligée de garder silence par rapport à ces actes ignobles qu'elle subit de la part du bourreau.
Il y a quelque chose que vous écrivez dans ce livre que j'ai trouvé à la fois très bien formulé et qui est vraiment l'expérience que nous faisons tous, c'est l'expérience du pouvoir extraordinaire des mots, de la parole. Le fait d'être capable de parler, qui est une aptitude qui est propre à tous les humains, du moins pratiquement tous, est en même temps, c'est comme s'ils avaient en eux le remède le plus puissant, Denis Mukwege.
Je crois que la violence sexuelle et tout ce qui est sexualité, c'est couvert par les tabous. Et donc, c'est comme s'il y avait l'autocensure. La victime s'autocensure et ne veut pas prendre la parole. Et quand vous posez souvent la question, après, c'est la peur de l'exclusion, du rejet. Et la victime ne sait pas comment la communauté va se comporter lorsque elle saura ce qui est arrivé. Et du coup, en fait, c'est comme si cette autocensure fait que la victime elle-même accepte. Et lorsqu'elle est dans cette autocensure, elle va continuer à se faire violer par la même personne, elle n'ose pas parler. Mais les jours où elle libère la parole est libérée, eh bien, la victime aussi, du coup, est libérée. Et c'est le début même du processus de guérison.
Est-ce que vous constatez dans la zone, qui est d'ailleurs très étendue des Kivus, est-ce que vous avez constaté une évolution? Parce que vous vous heurtez beaucoup, vous le dites, à des communautés villageoises, à des traditions qui continuent de rejeter la victime de viol parce qu'elle est souillée, entre guillemets. Elle se vit comme telle et elle est vécue socialement comme telle alors qu'elle n'y est évidemment pour rien. Et c'est d'ailleurs, là aussi, c'est une réalité qu'on rencontre en France tous les jours dans nos commissions, c'est-à-dire des gens qui ont été totalement victimes, agressées à l'âge de 9 ans ou de 11 ans, et qui continuent de se sentir coupables, qui continuent de se sentir souillés, comme s'ils étaient responsables du mal qui était passé par eux. Est-ce que vous constatez une évolution au niveau social, et est-ce que c'est et comment s'y prendre pour faire évoluer les mentalités?
Mais c'est très très difficile de faire évoluer les mentalités, même si aujourd'hui nous pouvons observer de plus en plus les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Souvent, elles demandent les soins, c'est par rapport à leur survie. Et elles ont peur qu'elles puissent attraper les maladies sexuellement transmissibles ou les VIH, etc. Et là, le pourcentage des demandes de services est très élevé. La prise en charge psychologique, il y a la moitié des femmes qui considèrent qu'elles n'ont pas besoin de cette prise en charge psychologique, même si on essaye de les intégrer dans les thérapies, par exemple, des groupes danse ou l'art thérapie où elles peuvent travailler avec les autres. Mais on sent très bien que souvent, ça représente seulement 50%. Mais lorsque vous demandez à ces femmes, vous leur dites que vous avez la possibilité d'aller en justice et on peut vous accompagner, donc constituer votre dossier, vous accompagner, eh bien, les chiffres tombent à 10%. Et quand vous posez la question « Pourquoi vous ne voulez pas aller en justice ?», souvent, c'est cette peur de la double sanction. Puisque vous êtes un juge, donc vous connaissez mieux que moi, en pénal, vous voulez absolument avoir des preuves, comme si la parole de la victime n'était pas suffisante. Là, je vous provoque un peu. Mais il est vrai que vous avez besoin de preuves. Mais comment une femme qui a été violée en pleine brousse, pendant une guerre, qu'est-ce qui va se passer? Comment nous allons avoir la preuve 3 mois après qu'elle a été violée, une femme adulte? C'est très difficile. Et si elle se plaint, il faut qu'elle prouve qu'elle a été violée. Or, elle ne peut pas fournir de preuves. Les femmes ayant peur d'être sanctionnées pour la deuxième fois, elles préfèrent ne pas se plaindre pour ne pas être humiliées pour la seconde fois. Et ça, c'est une victoire des bourreaux. Et je pense que la justice devrait trouver une autre façon. Les psychologues pourraient nous aider peut-être à trouver d'autres preuves, puisque dans l'administration de la preuve pendant les conflits est très très difficile et fait que beaucoup de femmes ont peur d'aller en justice pour qu'elles puissent être tout simplement jugé des menteuses ou un non-lieu prononcé. Elles ont peur de ça. Et ça, vraiment, ça diminue le nombre de femmes qui vont en justice.
Mais là, Denis Mukwege, vous mettez le doigt sur le principal problème de la justice, et qui est le problème de la justice, d'ailleurs, des cours d'assises ordinaires, mais qui est aussi un problème que nous rencontrons. C'est-à-dire que, à l'évidence, un procès pénal classique où il faut discuter toutes les preuves, où il faut remettre en cause les versions de chacun, et ce qu'on voit, ce que vous dénoncez d'ailleurs dans votre livre, je pense, qui est une pratique qui est peut-être plus répandue encore en common law en Angleterre, aux États-Unis, où il faut remettre en cause la moralité il faut juger de la moralité de la victime pour qu'elle devienne en quelque sorte une victime exemplaire. Ça, c'est le problème numéro un de la justice.
Je crois que quand nous parlons avec les victimes, elles ont peur d'être humiliées, puisque si elles vont en justice, les femmes que je soigne à l'hôpital de Panzi, souvent elles vont en justice tout en sachant que leurs bourreaux ne paieront pas. Ce sont des groupes armés, ce sont des commandants militaires. Ils savent que sur le plan réparation, elles n'auront rien. Donc elles vont en justice pour s'assurer qu'au moins il y a quelqu'un qui a le pouvoir qui dit « ce n'était pas de votre faute, c'est celui qui vous a violé, c'est lui qui est sanctionné ». Mais malheureusement, quand on leur demande de fournir des preuves, ça s'est passé il y a 2 ans, dans la forêt, j'étais caché. S'il n'y a pas eu un enfant pour faire l'ADN, donc il n'y a pas de preuve. Et du coup, elle s'est montrée en public comme une victime de viol et en plus, elle sort du tribunal menteuse. Et souvent, elles ont l'impression que je préfère de ne pas y
bien
aller.
Bien sûr, mais est-ce que là, on ne paye pas, Denis Mukwege, et votre combat d'ailleurs est très instructif là-dessus? Est-ce qu'on ne paye pas l'inadaptation du droit pénal qui assimile le viol, j'allais dire, ordinaire, par des temps ordinaires, qui est un viol de désir, qui est un viol de prédation d'une femme en particulier dans le cadre d'une relation ou d'une société, avec le viol de guerre qui est tout à fait autre chose. Le viol de guerre, c'est une manière de saccager le corps d'autrui, mais j'allais dire peut-être plus que d'assouvir un désir. En fait, c'est un acte de pouvoir à l'état pur.
Je crois que, et là vraiment, dans la chaire Mukwege, souvent nous demandons que les juristes puissent travailler sur ces questions. On ne peut pas rester figé. Il faut faire des progrès pour améliorer ce qu'on peut appeler la preuve dans le viol de guerre. Je peux vous dire, par exemple, pour les enfants, j'ai fait une étude qui avait porté sur plus de 3000 enfants qui avaient été violés. Et en fait, ce sont seulement les enfants de moins de 5 ans où vous avez des lésions physiques qui ne peuvent être rien d'autre que la conséquence du viol pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Mais ceux qui ont plus de 6 ans, elles peuvent avoir des lésions génitales qui sont en rapport avec le viol, mais parfois vous n'avez aucun signe. Et donc, pour ces enfants de moins de 5 ans, c'est très facile. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez apporter des preuves corporelles, des évidences de ces viols. Mais pour l'autre catégorie, des femmes beaucoup plus âgées, si elles ne viennent pas immédiatement ou dans les heures qui suivent les viols, parfois, vous n'avez rien. Et lorsque ça se passe pendant la guerre, alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisque quand il y a des balles qui sifflent à l'extérieur, elle ne va pas sortir pour aller à la police. D'ailleurs, la police n'existe même pas dans ces circonstances. Comment on fait? Et moi, je pense que l'histoire des femmes devrait être capitalisée. Et souvent, lorsque ce sont des viols collectifs, donc il y a lieu d'améliorer l'administration de preuves en capitalisant ce que les femmes racontent. Et moi, j'ai l'impression que sur le plan psychologique, les psychologues pourraient nous aider à vraiment avoir des preuves psychologiques de quelqu'un qui a été traumatisé. Aujourd'hui, on a besoin d'aller en profondeur. C'est un crime odieux. On ne peut pas se limiter à des procédures pénales que nous avons aujourd'hui qui font tout simplement que les femmes n'ont pas le courage d'aller en justice puisqu'elles ne veulent pas être humiliées pour la seconde fois.
Oui, mais alors, on constate, nous, dans les commissions de reconnaissance et réparation pour des victimes de violences sexuelles qui sont intervenues il y a des décennies. Alors, c'est très particulier. On constate qu'on a une preuve dans le parcours de galère qu'a subi la victime très souvent. dans lequel on retrouve des éléments qui sont très très récurrents, très récurrents. Le fait de ne pas supporter les odeurs, des odeurs insupportables et qui restent insupportables toute la vie. De ne pas accepter d'être touché, de tas de symptômes, et qu'une victime imaginaire ne pourrait pas inventer.
Je crois que tout ça nécessite d'être codifié. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, travailler très très proche avec les psychologues, puisque tout ça ce sont des réactions psychologiques qui sont conservées et qui vont se manifester lorsque on est devant les mêmes situations, on reproduit les mêmes réactions. Oui. Et on ne les fait pas. C'est pas des réactions qu'on calcule ou non, ça arrive pas. Devant les mêmes circonstances, on reproduit les mêmes réactions. Et je pense que tout ça, ça devrait être codifié pour permettre à ce que ça soit considéré également comme des preuves lorsqu'il y a un viol, que ce soit dans les conflits ou par exemple dans les cas de viols dans l'Église qui se sont passés depuis 60 ans et qui ont détruit la vie de ceux qui ont subi ces viols. Mais je n'ai pas l'impression que pour beaucoup de victimes, elles ont quand même peur d'aller en justice à cause de ça.
Oui, alors elles ont peur d'aller en justice parce qu'elles ont peur, comme vous le disiez, du second viol, ce qu'on appelle le second viol, c'est-à-dire la publicité. Et puis souvent, ce qu'on entend, c'est que des enquêtes, ce que montrent des enquêtes, c'est que les femmes qui ont été en justice et dont l'auteur a été condamné, elles ne sont pas contentes de l'expérience judiciaire parce qu'elles disent « j'ai l'impression que mon histoire, mon récit, extrêmement douloureux. Il a permis à la police de sortir une affaire, d'élucider une affaire, aux avocats de faire des belles plaidoiries, à la justice de faire des procès, etc. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas aidé. Et c'est pour ça que c'est l'intérêt de travailler sur des formules, ce que vous appelez holistiques ou que j'appellerais restauratives, c'est-à-dire dans lesquelles on peut essayer d'imaginer des solutions qui ne passent que par la parole. Que par la parole, une parole qui circule entre des personnes en présence d'un tiers, en présence de l'auteur désigné. En France, il y a une étude récente de 2017, qui montrait que la plupart des victimes connaissent leur auteur, que c'est des viols d'interconnaissance. C'est un parent, c'est un collègue de travail, c'est un patron, c'est etc., etc. Donc elles savent, elles peuvent mettre en cause nommément quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses, c'est une hypothèse, à chercher du côté d'une parole particulièrement garantie, bien sûr, mais d'une parole et qui ne passe plus par cette mise en scène du procès.
Ben, je crois que mon expérience, ici je vais donner l'expérience du procès des enfants de Kavumu. Nous avons même publié un papier sur ça. Ce sont des enfants qui étaient violés par un seigneur de guerre qui était connu et il a fait pendant 5 ans. Et on a tout fait pour faire arrêter ces messieurs. On ne pouvait pas puisqu'il avait une immunité parlementaire, quelque chose que je ne comprends pas du tout, ce que ça signifie une immunité pour un criminel. Et le jour où il y a eu quand même un juge militaire qui a pris le courage de l'arrêter, le juger, la semaine qui a suivi, il n'y avait plus de viols dans ce village, les viols d'enfants. C'était terminé le même jour. Mais ce que j'avais observé de la part des parents de ces enfants, qui n'ont rien eu en termes de réparation, en dehors d'un petit papier où on montre tout simplement qu'ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à leurs enfants, c'était une fête dans le village. Tout le monde était content et les papiers étaient brandis partout. Je crois que la justice, il faut absolument, si nous parlons de la justice transitionnelle, nous considérons que les victimes ne demandent pas la même chose pour les réparations. Cette réparation peut être différente. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre les attentes des victimes. Moi, je vois des femmes qui font 300 kilomètres à pied pour chercher à ce qu'on leur dise tout simplement, ce n'était pas de votre faute. 300 kilomètres, c'est énorme. Mais pour qu'elles guérissent, pour que leur processus de guérison puisse se compléter, Elles ont besoin que l'autorité, quelqu'un qui a le pouvoir, puisse dire que ces viols, c'était la faute du bourreau. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir un jugement où la victime a l'impression que c'était le théâtre pour les avocats et les juges. Et là, il faut essayer d'aller plus loin. Quelle est sa demande pour avoir la satisfaction ?
C'est ça. Vous parliez du procès de Batoumiké.
Oui.
Et vous citez, c'est très intéressant dans votre livre, vous citez ce procès-là, et vous citez aussi un autre procès, Coco di Coco, oui. Qui était un procès, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, mais un procès dans lequel un seigneur de la guerre, quelqu'un qui se croyait tout permis, comment, au cours du procès, il a changé totalement d'attitude ?
Je crois que quelqu'un qui se croit tout puissant, donc il peut violer les femmes dans un village, en prendre pour en faire des esclaves sexuels. Un jour, la justice l'attrape, et puis nous avons le système des chambres foraines, donc c'est-à-dire que c'est la juridiction qui se déplace dans le village, et cette personne qui se croyait tout puissant, il se retrouve au milieu du village avec tout le monde, et les gens commencent à raconter tout ce qu'il a fait à la population. Et du coup, on voit des gens qui se croyaient tout puissants fondre comme une bougie. Et je pense que là, effectivement, ce type de justice qui, de proximité, permet en fait peut permettre à une véritable réconciliation, puisque à ce moment-là, tous les villages voient très bien que cette personne, il a payé de ce qu'il a fait. Et nous encourageons beaucoup ces chambres foraines, puisque nous pensons que ça peut permettre aux villageois de reprendre confiance à leurs institutions.
C'est ça. Mais ce sont des chambres foraines de la justice militaire, Denis Mukwege. Ça, c'est quand même... Ça m'a interrogé, parce que la justice militaire, vous avez une vieille histoire avec la justice militaire, en général, qui était plus ou moins...
Et effectivement, je crois que, pour le moment, c'est la justice militaire. Mais, et ça pose un problème, c'est puisque, tout simplement, nous n'avons pas une véritable justice. Je venais de dire qu'un pays qui sort des 32 ans de dictature, 26 ans de conflits armés, la justice civile chez nous ne fonctionne pas du tout. Elle est corrompue, elle n'a pas de moyens, il n'y a pas des experts, par exemple, en médecine légale. Et tout ça pose des problèmes. Et c'est vrai que nous sommes critiqués par rapport au fait que c'est une justice militaire, mais pour le moment, c'est la seule justice
qui tient le coup,
qui fonctionne et qui permet au moins à ces victimes de reprendre une vie normale. Nous l'utilisons. Je sais que c'est limité, mais...
Oui, et puis qui offre le spectacle de l'autorité qui a triomphé de la violence. Quoi. C'est quelque chose d'absolument essentiel à la justice. C'est-à-dire que dans la justice, ce qu'on cherche, c'est un récit des faits, cette sorte d'inversion morale du temps, où on reprend les faits, mais avec un souci de justice. Et puis, il y a ce spectacle d'emprise, que finalement, de l'autorité morale, sur ces chefs de guerre qui semblent agir en toute impunité. Dans le fond, l'impunité est mortifère, Denis Mukwege.
Eh bien, je pense que c'est ça que nous observons. C'est que pour les victimes, à partir du moment où elles arrivent à cette satisfaction, il est vrai que quelqu'un qui se croyait vulnérable et qu'il pouvait tout se permettre, et du coup, il y a une autorité... à laquelle il doit se plier, je pense que ça change complètement les rapports des forces dans le village des victimes par rapport à ces seigneurs de guerre. Et pour le moment, je crois qu'on ne peut malheureusement se plier qu'à cette forme de justice qui nous donne des résultats jusqu'à aujourd'hui que je trouve satisfaisants, même si c'est critiqué. Oui.
Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Dès la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on l'affirme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel? Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel?
France Culture,
Esprit de Justice.
Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance.
Antoine
Garapon. Dois-je crier pour qu'on m'entende?
Il y a une autre réaction que je trouve très intéressante et là aussi qui fait réfléchir tout le monde sur vous raconter qu'un jour vous êtes allé dans un village très loin de Panzi et où les femmes s'étaient organisées pour faire une statue.
Absolument. Je suis entré par rapport à l'hôpital de Panzi, c'est vers l'ouest, vraiment en pleine forêt équatoriale, presque 350 kilomètres de Bukavu. Et on arrive dans cette ville, on trouve, c'est un village, mais on trouve un monument gigantesque avec où ils ont pu faire une sculpture d'une femme qui était au sommet de cette tour. Et la femme était tournée vers l'est. Et j'ai posé la question aux femmes qui sont venues me chercher à l'aéroport, ce que ça voulait dire. Elles ont dit tout simplement, nous avons construit ça pour que nos enfants et les générations à venir puissent savoir que tous les problèmes qui commencent à l'est nous apportent beaucoup de malheurs à l'ouest. C'était une façon très, très simple et basique de pouvoir exprimer ces besoins de mémoire. Et je crois que quand elle passe là, elle pense à toutes les femmes qui ont été violées et qui ont été tuées pendant la guerre. Et j'avais trouvé cette expression et même leur statut comme une expression très, très forte par rapport au travail de mémoire dans une communauté. Et je pense que dans des villes où on a des intellectuels, des juristes, vous allez au Congo, il n'y a pas de mémoire. Et aller trouver cette mémoire en pleine forêt, dans le village, moi, ça m'avait beaucoup impressionné.
Faites par les femmes elles-mêmes.
Oui.
C'est ça. C'est-à-dire que on peut dire que elles avaient inventé leur propre réparation. C'est-à-dire c'est une réparation symbolique de dire nous résistons sur ce qui nous est arrivé et on y trouve une expression culturelle, on dirait chez nous.
Et je crois que la réparation, en fait, j'étais dans une délégation où on voulait savoir. Pour les femmes, ce que signifiait la réparation et qu'est-ce qu'elles voulaient comme réparation. Ma grande surprise, c'était de constater que ces femmes qui sont pauvres et qui vivent avec à peine $1 par jour, elles ne demandaient pas qu'on leur donne de l'argent. Elles voulaient absolument qu'en termes de réparation, et elles exigeaient ça, elles exigeaient par exemple qu'on puisse les construire des écoles pour leurs enfants, puisqu'elles avaient peur que si leurs enfants ne sont pas instruits comme elles-mêmes n'ont pas eu l'instruction, que ces enfants puissent subir la même chose. Je trouvais ça génial. Et elles exigeaient, par exemple, je crois que c'est à Nitori, où elles nous ont dit, nous voulons que vous puissiez construire de grandes églises où toutes les ethnies peuvent venir prier ensemble, et ça va nous permettre de construire la paix. Ça, ce sont des travaux de mémoire où la réparation est collective. Mais effectivement, il peut y avoir, nous avons eu aussi quelques femmes qui demandaient à ce qu'on puisse, en termes de réparation, qu'on puisse leur donner un cahier qui les permet d'avoir des soins gratuits puisqu'elles ont attrapé le VIH, elles ne savent pas se faire soigner et que, en termes de réparation, qu'elles puissent au moins avoir un ticket modérateur qui les permette d'accéder aux soins. Et donc, je crois que moi, j'étais très frappé par la notion de réparation, sans que ces femmes aient fait des études quelconques, mais elles savaient exactement exprimer ce qu'elles attendaient en termes de réparation, sans l'appeler réparation, mais qu'on puisse poser des actes qui vont montrer que la communauté se soucie et la communauté tient compte de leur souffrance et veut que cette souffrance soit réparée.
C'est ça. Et comment s'y prendre dans une culture orale, une culture essentiellement orale? Comment constituer une mémoire transmissible, une mémoire qui permet de capitaliser, vous le disiez, capitaliser sur ces expériences terribles du passé?
Ben, dans d'autres régions, j'ai trouvé que leur façon de capitaliser, en fait, ils chantent, ils racontent. Ils font des comptes de ce qui s'était passé dans leur village. Et il y a plusieurs façons, mais je crois que ça nécessite absolument une certaine organisation pour permettre à ce que le travail de mémoire soit fait pour les générations futures et que ça ne puisse pas disparaître. Mais j'ai trouvé dans certains villages où vraiment ils comptent, ils chantent, ils utilisent des instruments traditionnels pour chanter et raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans leur village.
Alors, vous contestez beaucoup Denis Mukwege, et je pense que ça doit faire réfléchir les personnes qui pensent les processus de paix. Finalement, la paix c'est acquise au Congo en incorporant des milices, en les incorporant à l'armée régulière. Et ce que vous dites, c'est que ça a incorporé la culture du viol.
Vous dites tout à fait le contraire. On n'a pas la paix puisqu'on a incorporé les criminels dans l'armée, dans la police. Et on voit que 25 ans après, nous continuons à courir derrière la paix et on ne l'a pas. Je crois que ça, d'une grosse erreur qui a été commise lorsque on a fait des négociations. Et de ces négociations, on a accepté d'intégrer dans l'armée des criminels. En fait, on a démobilisé les uniformes, mais on n'a pas démobilisé les esprits. Et ces gens sont entrés dans l'armée avec la même façon de faire. Et donc, ils ont intégré des criminels dans l'armée. Et ça empêche aujourd'hui le Congo d'avoir la paix.
Et vous parlez même en médecin qu'il y a une sorte d'épidémie du viol, une sorte de contagion de cette culture du viol parmi les jeunes soldats et notamment les très jeunes soldats, les enfants soldats.
Absolument. Les jeunes qui ont été pris dans ces groupes armés, ce qu'on fait, ils subissent un lavage de cerveau. On leur montre très bien que vous entrez dans l'armée, on va vous donner une arme. Et avec cette arme, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez, etc. Un enfant qui a 12, 13, 14 ans, il croit à ces récits des adultes. Et il fait ce travail pendant ces sales besognes pendant 6 ans, 8 ans. Quand il a 20 ans, il est démobilisé. Et on dit, bon, monsieur, comme vous avez décidé d'arrêter la guerre, peut-être on vous achète une moto ou on vous renvoie dans votre village. Mais il n'y a aucune prise en charge psychologique qui est faite. Ou on l'envoie dans l'armée, il est intégré dans l'armée. Et ce que nous constatons, c'est que ces jeunes enfants, que moi je considère comme des victimes, des bourreaux victimes, puisque quand ils ont 12, 13, 14 ans, et qui subissent un lavage des cerveaux, c'est plutôt ces officiers qui les intègrent dans ces groupes armés qui devraient être condamnés pour cet acte, mais ceci ne les dispense pas des crimes qu'ils commettent après. Mais ils deviennent, ils ont une addiction par rapport à ces crimes de viol et de violences sexuelles. Et malheureusement, même si on les intègre dans l'armée, ils continuent à faire la même chose. Et moi, je crois qu'il n'est pas appliqué la justice pour des gens qui ont commis de viols et des crimes de ce type. C'est tout simplement essayer de sacrifier donc la justice pour avoir la paix, mais à la fin, on n'a ni justice ni paix.
Comment est-ce qu'on fait, Denis Mukwege, parce que c'est une expérience que vous avez eue aussi, comment est-ce qu'on fait pour cet enfant bourreau victime? Je vous pose la question parce que c'est une question, là aussi, qu'on se pose beaucoup en France à propos des violences sexuelles, où on se rend compte qu'une proportion importante, qu'on estime à 40%, près de la moitié, des auteurs de violences sexuelles sont d'anciennes victimes. Comment est-ce qu'on interrompt ce cycle de la répétition? Comment est-ce qu'on peut casser cette spirale infernale? Vous parlez de cycle de violence, et ben voilà un cycle de violence entre un jeune garçon qui va reproduire, qui va être à la fois victime en tant qu'il est manipulé, qu'il est recruté par des gens qui vont se servir de sa force pour la pervertir.
Je pense que de la même façon que les victimes demandent une reconnaissance, je crois que les enfants, les bourreaux victimes doivent également être condamnés pour qu'ils comprennent que l'acte posé est punissable par la loi. Et je crois que les intégrer seulement sans aucune forme de justice, je crois que ça, c'est une erreur grave, puisque si la victime a besoin d'une certaine reconnaissance comme victime, ces bourreaux enfants doivent absolument être condamnés pour les actes criminels qu'ils ont posés, pour qu'ils puissent comprendre que ces crimes ne doivent pas se commettre dans la société. Mais également, je considère qu'ils ont, la société a l'obligation de leur donner la possibilité de poursuivre des soins mentaux, puisqu'ils ont des troubles qu'il faut absolument pouvoir soigner et pas les réintégrer dans l'armée ou dans la police. On les met dans les mêmes conditions, ils vont reproduire les mêmes actes.
Et il n'y a pas de centre de soins, il n'y a pas une perspective de réflexion sur les soins spécifiques qu'on pourrait apporter aux enfants soldats?
Ben, je crois que la façon de les faire ne peut pas permettre d'avoir les résultats. Ce sont des enfants ou des jeunes qu'il faut pratiquement suivre toute leur vie. Et, j'ai discuté avec un psychiatre allemand, Thomas Elbert, qui a beaucoup travaillé avec les enfants soldats en République démocratique du Congo. Je crois qu'il m'avait un tout petit peu déçu en disant, cher docteur, je pense que ces gens, ils ne pourront pas guérir, mais on peut diminuer en les prenant en charge, en continu, on peut diminuer leur agressivité, leur capacité de faire le mal, mais on ne peut pas garantir qu'ils ne vont pas faire le mal. Mais si vous les laissez dans la nature, en fait, ce sont des mines antipersonnelles que vous lâchez dans la nature et qui peuvent faire le mal à n'importe quel moment. Malheureusement, dans beaucoup de conflits, c'est comme ça.
Denis Mukwege, on a vu l'étendue du drame, c'est le mot est faible, de cette violence. Comment vous imaginez une sortie de crise? Comment vous avez pris une initiative pour une justice transitionnelle et holistique pour essayer de proposer, de mettre quelque chose sur la table de façon à faire à ce que aussi bien les autorités congolaises que la communauté internationale aient un horizon, une perspective, j'ose pas dire d'espoir, mais au moins de sortir de cette violence qui dure maintenant depuis plus de 3 décennies.
Nous, à la Fondation Panzi, nous avons fait une proposition d'une justice que nous appelons holistique, puisque en fait nous considérons qu'il n'y a pas une solution pour toutes les victimes. Et il faut considérer qu'il y a plusieurs solutions qu'il faut envisager. Et dans notre plaidoyer, nous demandons à ce que cette justice puisse être au même moment avoir une branche judiciaire et aussi des mécanismes extrajudiciaires.
Répressive et en même temps accompagnatrice.
Voilà, qui permet d'accompagner les victimes. Et je crois qu'en ce qui concerne la répression, je l'avais dit tout à l'heure, on a besoin de tenir compte du fait que c'est un conflit qui a été un conflit internationalisé ou des conflits internationaux qui ont fait intervenir des pays tiers. Et lorsque nous avons des pays tiers qui ont agressé la République démocratique du Congo, qui ont commis des crimes qui peuvent être considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des actes qui peuvent être constitutifs des génocides, on a absolument besoin d'un tribunal pénal international. Et moi, j'ai toujours dit, ce tribunal pénal international pourrait juger les instigateurs, quelques dizaines, puisqu'on sait que c'est très lourd à faire, mais le rapport Mapping avait proposé également des chambres spécialisées mixtes.
Mixtes, c'est-à-dire avec des juges internationaux et des juges congolais.
Et des juges congolais. Et ça, ça serait une formule qui permettrait spécialement de juger des criminels congolais. Puisque avec tous les pays tiers, ça sera très très difficile d'extrader. On n'a pas de convention d'extradition avec beaucoup de pays de la région qui ont intervenu en République démocratique du Congo. Mais également, ces chambres spécialisées mixtes peuvent permettre de gérer tous les problèmes à l'intérieur. Et moi, je continue à croire à ces juridictions. Je sais que les juristes ne sont pas d'accord avec moi. Mais ces juridictions militaires qui, dans des conditions très, très difficiles, ont pu quand même juger des militaires ou des chefs de guerre et permettre à ce que, dans certains villages où on violait 5 enfants par jour, on puisse éradiquer le viol. Je crois que les spécialistes devraient étudier comment utiliser ces juridictions au niveau vraiment local pour donner une justice de proximité. Ça, c'est ma proposition aux juristes de pouvoir se prononcer par rapport à ça. Et avoir toutes les mesures, donc les mécanismes extrajudiciaires. Il faut absolument qu'il y ait une commission vérité. Il faut absolument qu'il y ait... Le travail de mémoire est très, très important. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur les réparations. Je crois que les réparations peuvent être administratives ou judiciaires, mais on ne peut pas laisser les victimes pendant 10 ans en train de mourir de VIH puisqu'elles ont contracté le VIH lorsqu'elles ont été violées et dire, bon ben, vous vous soignerez quand vous aurez la réparation. Je crois qu'il faut faire quelque chose.
En même temps.
En même temps, permettre à ce que ces victimes puissent survivre et arriver un jour au procès. Et de l'autre côté, je crois fermement qu'en donnant une réparation à ces victimes, une réparation administrative, ça permet absolument à ce que beaucoup de victimes puissent se sentir soutenues. Et ici, nous ne voulons pas remplacer l'État. Je crois que j'insiste aussi sur ça. Par exemple, le Global Survivor Fund que nous avions créé, le fonds
global. C'est un fonds.
C'est un fonds global pour les survivantes qui permet, en fait.
Pour les violences sexuelles.
Oui, exactement, dans le conflit. Pour permettre de faire des réparations lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas. Dans ces deux conditions, nous pouvons les aider. Ou alors, on peut accompagner un État qui veut donner l'expertise qu'il faut.
Alors, Denis Mukwege, vous avez donc, on l'a vu, à la fois un bon diagnostic des injustices et puis des propositions. Mais en même temps, vous insistez sur quelque chose et je crois qu'il faut aussi le mentionner parce que c'est peut-être le fond du problème. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe au Congo. Le paradoxe, c'est que c'est un pays l'un des plus riches du monde. Par son sous-sol, et en même temps l'un des plus pauvres dans sa maladministration et dans la violence endémique, surtout dans votre région. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attaquer aux problèmes économiques et aux problèmes économiques qui concernent particulièrement le Congo oriental et les Kivu, Denis Mukwege ?
Eh bien, là, vous touchez au nez du problème. C'est que le chaos en République démocratique du Congo, c'est un chaos organisé sur le plan régional et sur le plan international. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir tous les gadgets que nous avons sans le tantal qui vient dans cette région. On ne peut pas avoir les batteries sans le cobalt du Congo. Et je pense que ces chaos organisés, aujourd'hui, toutes ces victimes crient à la justice, demandent à ce qu'il y ait la paix. Et je pense qu'il y a la possibilité d'exploiter ces minerais sans faire toutes ces atrocités sur le corps des femmes.
C'est-à-dire que on voit comment la justice judiciaire, le respect dû au corps des femmes s'emboîte sur une justice politique et sur une justice même militaire, vous disiez, et puis plus profondément encore sur une justice économique, c'est-à-dire que le peuple puisse bénéficier des fruits de ses propres richesses, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Aujourd'hui, je crois que la population de l'Est du Congo vit dans une pauvreté extrême. Et cette pauvreté, je dirais que même nous prenons en charge les enfants qui travaillent dans les mines, c'est un esclavage tout simplement qui s'applique sur les enfants pour exploiter les mines sans être payés. Ces enfants sont payés des bananes. Et je crois que notre plaidoyer, c'est aussi la lutte contre cette corruption, puisque sans corruption, effectivement, on ne pouvait pas arriver à ces niveaux. Et nous croyons qu'une justice holistique devrait normalement aussi lutter contre la corruption, puisqu'en fait, tout ça, l'impunité et la corruption, c'est le même système, et donc ça pérennise les chaos.
Est-ce que ça ne veut pas dire, Denis Mukwege, qu'il faudrait des accords internationaux avec vos voisins, parce que les voisins participent beaucoup, entretiennent beaucoup ce système de guerre?
Je crois qu'on a déjà fait beaucoup de négociations de paix. Même actuellement, il n'y a pas trois semaines qu'ils étaient en Nairobi pour négocier. Mais je crois que négocier avec celui qui entretient la guerre ou l'appeler pour terminer la guerre, je crois que c'est faire recours aux pyromanes pompiers. Je crois que ça, malheureusement, pendant 20 ans, ça n'a rien donné. Je crains qu'il faut que la justice internationale s'implique.
Cette émission touche à sa fin, Denis Mukwege. Un mot d'espoir pour laisser les auditeurs avec des perspectives pour l'avenir?
Je crois dans la capacité de la République démocratique du Congo de se mettre debout, de pouvoir être un pays qui pourra respecter les droits des femmes et qui pourra donner aux femmes les droits qu'elles méritent. Et pour cela, je pense que nous avons besoin que les droits internationaux et humanitaires qui s'appliquent ailleurs puissent également s'appliquer en République démocratique du Congo, puisque nous faisons partie de la planète Terre.
Merci beaucoup, Denis Mukwege.
Je vous remercie.
Esprit de justice, ce soir avec Denis Mukwege, Guillaume Baldi, Frédéric Kérou. Cette émission a été possible grâce à l'invitation et au soutien efficace de Bérangère Taxi, que je remercie, avec le soutien de Sandrine Chaperon, Antoine Garabon.